chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art et la foi. Nous parlons pas seulement de l'art, mais aussi de l'histoire de l'iconographie, et nous avons le très grand plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Didier Méhu, un docteur en histoire médiévale qui enseigne en tant que professeur l'histoire et l'histoire de l'art à l'Université Laval, Québec, avec son point fort évidemment le Moyen-Âge. Et Didier Méhu est au passage à Chartres, et nous profitons de cette bien agréable occasion qui nous est offerte de parler avec lui aujourd'hui, après une première émission que nous avons diffusée, je crois, avant l'été, des voyages des papes et de la spatialisation du sacré au Moyen-Âge. Voilà un titre fort érudit, donc ça nous donne tout de suite l'occasion de vous poser la question: qu'est-ce qu'il faut entendre par spatialisation du sacré?
Oui, bonjour d'abord et merci de votre accueil. Effectivement, quand on avait discuté de cette émission, bon, vous m'aviez demandé si je pouvais parler des questions de sacralisation de l'espace, puisque c'est un de mes thèmes de recherche sur les modes de consécration pendant la période médiévale. Et puis je vous avais dit, oui, d'accord, je vais bien parler de ça, ça m'intéresse beaucoup, mais il faut changer le titre, il ne faut pas parler de sacralisation de l'espace, il faut parler de la spatialisation du sacré.
N'est-ce pas un jeu de mots?
Alors, évidemment, on pourrait dire, oui, bon, bah, c'est encore les intellectuels qui font simplement des jeux sur les mots, mais... Bon, nous, on travaille avec des mots, donc précisément, notre rôle, c'est de bien les choisir. Et ce concept, c'est pas moi qui l'ai inventé, je le reprends de plusieurs historiens médiévistes avec lesquels j'ai travaillé depuis les années 90. En fait, sacralisation de l'espace, qui était le terme, disons, classique, implique que l'espace... existe, il y a l'espace de l'espace social, et que cet espace est progressivement sacralisé. Et en fait, quand on observe la manière dont ça marche au Moyen-Âge, c'est exactement l'inverse. C'est au contraire le sacré, la notion même de sacré, qui existe depuis les premiers temps du christianisme, mais on va assister au cours du Moyen-Âge à un phénomène de spatialisation du sacré, c'est-à-dire, pour le dire rapidement, à une période pendant laquelle le sacré est relativement diffus, ou en tout cas il est incarné dans des hommes, alors qu'à partir principalement, le phénomène est un phénomène de longue durée, comme toujours ce qui se passe dans l'histoire, notamment au Moyen-Âge, ça passe en gros entre le 9e et le 13e siècle, donc ce qu'on appelle nous le Moyen-Âge central, et c'est vraiment pendant cette période-là que le sacré va... de plus en plus fréquemment s'inscrire, non pas simplement dans des personnes, un évêque consacré ou un pape, mais s'inscrire dans des lieux. Faut jamais oublier, on peut partir du point de départ, saint Augustin, bon père de l'Église, qui est un des fondateurs du dogme chrétien et de ce qu'il deviendra pendant des siècles, pour saint Augustin, le lieu de culte n'a à peu près aucune importance. Et on peut très bien prier à partir du moment où vous avez un évêque et vous avez la célébration de l'Eucharistie, c'est légitime. Saint Augustin va écrire des choses extrêmement rudes également à l'égard des cimetières. Le lieu de sépulture est tout sauf un lieu sacré. Il faut accorder aucun soin aux sépultures, aux morts. Ce qui compte, c'est l'esprit. Et on se rend compte, si on se place 7-8 siècles plus tard, 12e, 13e siècle, la période emblématique ici à Chartres, c'est complètement l'inverse. On a des cathédrales qui sont construites où là c'est un lieu sacré, où c'est un débordement d'énergie sociale pour construire ces lieux-là. Les cimetières sont des lieux consacrés, on bénit les tombes. Donc c'est une sorte de révolution qui s'est passée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est vraiment ce phénomène-là que... avec plusieurs historiens, on s'est penché là-dessus pour essayer de dire, attendez, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Occident pour faire en sorte que le sacré progressivement s'inscrive dans des lieux, parce que ce n'est pas de toute antiquité, et puis ça a subi des vicissitudes, il y a des périodes pendant lesquelles ça a été contesté, et on est revenu là-dessus. Et donc c'est ça, en fait, ce phénomène de spatialisation du sacré, et... il me semble, alors ça c'est plus les recherches que je mène depuis quelques années, moi il y a deux axes qui m'ont intéressé, qui sont vraiment pas les seuls phénomènes qui expliquent tout ça, mais c'est les voyages des papes et les phénomènes de rituels de consécration de l'Église et qui changent à la période du Moyen-Âge central, au 9, 10e, 11e siècle.
Alors nous avons eu avec les deux derniers papes des papes qui ont voyagé beaucoup dans notre époque contemporaine et on a l'impression qu'il n'en fut pas toujours ainsi. Effectivement, on a eu des papes qui sont toujours restés à Rome, qui ont très peu bougé. Il y avait donc une période où les papes ont beaucoup voyagé.
C'est ça.
Avec quels moyens ? Dans quel but ?
Voilà, exactement. Alors, vous savez, la mémoire historique, elle est courte. Je veux dire, la mémoire du public général. Et à partir du moment où depuis, Jean-Paul II, le pontificat de Jean-Paul II a été, non seulement il a été long, il a été décisif parce que c'est un pape voyageur. Avant lui, il y avait Paul VI qui était déjà un pape voyageur de moindre ampleur. Et puis, le successeur Benoît XVI a continué. Donc, je pense que dans la majeure partie de l'esprit des gens, on dit, oui, les papes, c'est normal, ils voyagent, il faut qu'ils aillent dans l'ensemble de la chrétienté. C'est pas du tout le cas dans l'histoire de l'Église. Avant le 8e siècle, aucun pape ne voyage en Occident. Aucun. Il y a quelques, ce qu'on pourrait appeler des déplacements diplomatiques où ils vont de temps en temps à Constantinople voir l'empereur parce que c'est le principal prince, il faut qu'il négocie des questions de pouvoir.
Il y a les légats qui vont transmettre les ordres du pape.
Même chose, il n'y a quasiment pas de légats avant la période carolingienne. Donc, et il ne faut jamais oublier que la papauté, c'est une évolution historique. Le pape, c'est l'évêque de Rome, quand même, avant tout. Et jusqu'au 8e siècle, l'évêque de Rome, il a une sorte de suprématie honorifique parce qu'il est à Rome, donc lieu historique de l'histoire de l'Église. Mais il n'a aucune autorité sur l'ensemble de l'Église. La hiérarchisation globale, c'est...
Mais c'est quand même le successeur de Pierre, et sur cette pierre, le Christ a dit qu'il allait édifier son Église.
Ah, ça, c'est, c'est l'Évangile de Matthieu,
mais
ça et la papauté, il y a un monde. Et, je veux dire, et ça, ça n'a pas été repris par
on
les
a pas
papes
ressenti la
avant
papauté.
Des décennies, avant des siècles même. C'est vraiment...
Voilà une chose intéressante.
Le fait que c'est plus Rome en tant que telle. Rome est évidemment le lieu de Pierre, mais c'est pas pour autant qu'on a affaire à une institution hiérarchisée. Rien que la différence entre évêque et archevêque, c'est une création du 9e siècle. Il n'y a pas d'archevêque avant le 9e siècle. Le fait que l'évêque ait une juridiction extrêmement... qui est une église hiérarchisée depuis le prêtre de paroisse jusqu'au pape, tout ça s'est mis en place... Vraiment, c'est scellé au cours du Moyen-Âge, en fait, au cours du Moyen-Âge central. Et donc, pour revenir au voyage, c'est lié à ça. C'est-à-dire que les papes ont commencé à voyager beaucoup au cours du XIe siècle. Le premier pape voyageur, et je l'appelle vraiment pape voyageur, c'est Léon IX, 1049-1054. Il a dirigé l'Église pendant 5 ans. Pendant 5 ans, il a vécu 9 mois à Rome. Tout le reste du temps, il est en voyage. Donc, c'est un pape qui est sur les routes en permanence. Et quand on parle de pape qui voyage au Moyen-Âge, c'est pas évidemment un voyage éclair comme aujourd'hui. Les voyages peuvent durer plusieurs années. Et c'est au minimum plusieurs mois. Et ce sont des voyages itinérants où le pape va partir de Rome ou d'ailleurs, parce que ça aussi, il faut jamais oublier que au Moyen-Âge, le pape réside pas très souvent à Rome, parce qu'il y a des gros problèmes politiques à Rome, et donc il réside dans d'autres lieux de l'Italie, ou dans la vallée du Rhône, ça c'est bien connu, on connaît Avignon, mais les papes ont vécu pendant très longtemps à Lyon, ont vécu à Vienne, enfin il y a des tas de résidences pontificales, et Rome est loin d'être le seul centre de la papauté.
On va faire une petite pause musicale, et après on va parler des moyens de voyage.
On viendra, voilà.
Nous venons d'apprendre que les papes voyageaient beaucoup à une certaine période du Moyen-Âge et Didier Méhu, qui est avec nous dans le studio, va peut-être nous parler effectivement des moyens de voyage.
Des moyens, et peut-être, si vous me permettez, de revenir sur les raisons de cet essor. J'ai parlé de Léon IX, donc au milieu du XIe siècle, parce que ce n'est pas le seul. Et en fait, il y a en gros un siècle, 1150-1150 où les papes voyagent en permanence, enfin pas en permanence, il ne faut pas exagérer, mais disons très très souvent, et c'est un changement important dans l'institution pontificale qui est moins sédentaire, qui va être beaucoup plus itinérante. Et tout ça, en fait, un des motifs principaux, c'est de créer un réseau, de créer un réseau romain. On est dans une période pendant laquelle les structures politiques héritées de l'Empire carolingien se sont en grande partie effondrées et l'autorité principale en Europe va passer aux mains de la papauté. Et il y a évidemment des conflits importants et le pape va tout simplement aller chercher des soutiens. Puisqu'il est en conflit avec l'empereur de manière importante pour des questions de prérogatives, pour savoir qui doit avoir l'autorité sur les ecclésiastiques. Est-ce que c'est le pape ou est-ce que c'est l'empereur? Auparavant, c'était l'empereur. Depuis, Constantin, c'est l'empereur qui a l'autorité sur les ecclésiastiques et pas le pape. Et le pape revendique ce pouvoir et donc les deux revendiquent ce qu'on appelle le dominium mundi, la domination sur le monde. Donc là, on a deux propositions antagonistes. Et les papes vont aller chercher des soutiens, donc ils vont parcourir une partie de l'Europe pour aller rencontrer, ils vont séjourner dans les monastères, dans les cathédrales, et c'est un échange de bons procédés, c'est-à-dire qu'ils vont donner des privilèges aux églises qu'ils visitent, ils vont consacrer des lieux, et ils vont rattacher ces lieux à Rome, et c'est la naissance de la chrétienté, c'est à ce moment-là aussi que le mot même de chrétienté change de sens pour avoir auparavant un sens avant tout social, la chrétienté c'est l'ensemble des chrétiens, la chrétienté va prendre un sens spatial, c'est l'ensemble des, ça va devenir quelque chose de plus territorialisé et des personnes qui sont reliées à Rome d'une manière ou d'une autre. C'est pas par hasard que c'est à cette période-là aussi que vont être lancées les croisades, et elles sont lancées lors de voyages pontificaux par Urbain II. Donc on est dans le cadre d'une d'entreprise de gouvernement, du gouvernement pontifical qui se charge des soutiens. Alors vous me posez la question des moyens, c'est effectivement une question fort intéressante avec et sur laquelle je répondrai avec beaucoup de prudence parce que pour les périodes les plus anciennes, 11e, 12e siècle, on a peu d'éléments, on a peu de témoignages, peu de sources précises. Alors, les papes voyagent majoritairement... D'abord, ils voyagent en cortège. Ils ne voyagent pas seuls, ils voyagent très nombreux. C'est-à-dire qu'ils se déplacent avec la curie, c'est-à-dire la cour de Rome. C'est-à-dire les cardinaux qui sont créés au 11e siècle, qui sont créés en 1059, enfin les cardinaux, le collège d'électeurs. Ils se déplacent avec un certain nombre d'évêques et d'abbés qui vont accompagner le pape pendant plusieurs semaines. Par exemple, on part, admettons qu'on parte de Rome, puis on se dirige en direction de Florence, et puis on va rester 3-4 jours. On reste en général 3 jours à une semaine au même lieu. Et s'il y a des choses à négocier avec l'évêque de Florence, eh bien les choses ne sont pas forcément négociées au bout de 3 jours. Donc l'évêque de Florence va poursuivre le voyage pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines avec le pape. Puis au fur et à mesure, le cortège comme ça change. Il faut avoir des interprètes, parce qu'on traverse des régions qui sont de langues différentes. Les papes parlent évidemment tous le latin, mais ne parlent pas nécessairement ni le français. Alors si on a un pape français, il va parler le français, mais on a des exemples, Pascal II, qui est un pape italien, on sait qu'il ne parlait pas le français. Et il a fait l'essentiel de ses voyages en France. Donc il avait des interprètes qui traduisaient pour lui. Et puis il voyage à cheval. Alors, très précisément, est-ce que le pape est toujours sur la monture? Est-ce qu'il est plutôt dans un char derrière? À mon avis, c'est plutôt ça.
On a une représentation dans un vitrail du déambulatoire à Chartres.
D'un pape à cheval?
Dans un char.
Dans un char,
avec
d'accord.
Avec Constantin.
Bon, faudra que j'aille voir ça, ça m'intéresse. Parce que, en revanche, il y a des moments où le pape chevauche, là, véritablement, et ce sont les moments d'entrée. Parce que le voyage, c'est évidemment des moments de transport de ville à ville qui sont périlleux, qui peuvent être dangereux. Faut pas oublier non plus qu'il se déplace avec une partie des archives et avec la chancellerie qui est là, puisqu'au fur et à mesure des voyages, on va accorder un privilège ou confirmer un privilège à telle ou telle église. Donc il faut qu'il y ait les scribes, les notaires pontificaux avec eux. Et quand ils arrivent dans une ville ou à l'approche d'une cité épiscopale ou d'un monastère, il y a toujours des cérémonies d'entrée. Où là, on reproduit des cérémonies qui sont au départ des cérémonies impériales, celles des empereurs romains, qui ont été christianisées avec la cérémonie de l'entrée du Christ à Jérusalem. Et il s'agit manifester une sorte de prise de possession du lieu dans lequel on arrive. Donc là, le pape est à cheval. Il est accueilli à l'extérieur de la ville avec un cortège. On vient le chercher et puis on l'accueille avec généralement la personnalité qui va l'accueillir, qui tient les brides du cheval en signe d'humilité, enfin en signe de soumission plus exactement. Il se met dans la position de l'écuyer pour accueillir le pontife dans le siège. On intronise le pape quand il arrive. On a quelques exemples où on sait que on reproduisait la cérémonie du couronnement pontifical, donc de son intronisation, dans les lieux où il était accueilli. Comme si on voulait bien montrer que tous les lieux dans lesquels il passait, c'est comme si c'était une seconde Rome, qu'il était chez lui, et on refaisait la cérémonie du couronnement, de l'intronisation, on déplaçait évidemment le pape avec son trône, etc.
Dans l'église du lieu.
Dans l'église ou dans le palais épiscopal, y a différents cas de figure, mais c'est généralement dans l'église, en effet. Ouais.
Alors nous restons toujours dans notre titre de la spatialisation du sacré, et on peut peut-être développer certains rituels de consécration de l'église, justement.
Tout à fait.
Ça serait intéressant de...
Oui, parce que justement, c'est par là que je suis venu à ces questions d'études des rituels de consécration. C'est en m'intéressant aux voyages pontificaux, et je me suis rendu compte que l'une des principales activités effectuées par les papes en voyage, ce sont des cérémonies de consécration. Et on pourrait véritablement parler de voyages comme des tournées de consécration. Donc, ils vont arriver dans tel ou tel lieu et on consacre l'église. Si l'église est déjà construite, on ne va pas reconsacrer une église. L'église, elle est consacrée une fois. Mais c'est pas par hasard qu'on est là au XIe, XIIe siècle, une période de grande construction et reconstruction d'église. Et on sait très bien que les évêques ou les communautés monastiques, sachant que le pape passait pas très loin, faisait appel au pape pour faire en sorte qu'il vienne consacrer l'église, même si elle n'était pas terminée, même s'il y avait trois pierres, pour profiter du passage du pape, pour faire en sorte qu'on ait une église consacrée par le pape. Et on sait que même à certains endroits, le pape a consacré un terrain où l'on prévoyait de construire une église, où il a consacré une croix, où plus tard on construirait l'église.
On va faire une toute petite pause et après on parlera en
du
détail
rituel,
des rituels.
Oui, ouais, tout à fait.
Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel et Didier Méhu, historien, grand spécialiste de l'histoire de l'art et de l'histoire du Moyen-Âge, nous parle du rituel de consécration de l'Église et des voyages des papes.
Voilà. Alors, relation entre les deux, parce que comme on le disait tout à l'heure, au cours des voyages pontificaux au Moyen-Âge, il y a beaucoup de consécrations. Alors, ce sont principalement des consécrations d'Église, parfois aussi des consécrations de cimetières. Le rituel de la consécration du cimetière apparaît au Xe siècle et va se développer au cours du XIe siècle. Alors le rituel de la consécration était vraisemblablement la cérémonie liturgique la plus fastueuse de l'Église médiévale, de l'Église occidentale. C'est un rituel qui durait une journée complète, on pourrait même dire une journée et demie, puisque la cérémonie commence la veille. On choisit en général un dimanche, bien que ce ne soit pas obligatoire. Et en fonction du passage du pape, si on veut que le pape consacre, ben ça peut être un mercredi ou un jeudi. Petite parenthèse, il n'y a pas simplement les papes qui consacrent. La consécration, c'est une prérogative épiscopale. Seul un évêque peut consacrer, et le pape, en tant qu'évêque, consacre. Il ne consacre pas en tant que pape, il consacre en tant qu'évêque. Mais il y a eu d'ailleurs une discussion qui n'a jamais été tranchée au Moyen-Âge, puisque certains théologiens voulaient que seul le pape ait le droit de consacrer des églises. Et il y a eu certains écrits sur le sujet défendaient la supériorité de la consécration du pape, mais ça n'a pas été entériné dans le droit canon. Donc lorsqu'un évêque ou lorsqu'un pape arrive, la cérémonie commence la veille du jour choisi, avec une cérémonie de prière, parce qu'en fait, la cérémonie va organisée principalement autour des reliques. Elle consiste à mettre à l'intérieur du lieu que l'on va consacrer des reliques. C'est une sorte de mise au tombeau. C'est une cérémonie qui est véritablement une cérémonie sépulcrale. On va mettre les saints dans leur lieu, dans leur tombeau. Donc, si les saints étaient déjà là, ce qui arrive très souvent, sauf si c'est une nouvelle construction, on doit d'abord procéder à l'enlèvement des reliques. Donc, la veille au soir, on sort les reliques de l'église pour pouvoir les mettre le lendemain au moment de la consécration. Donc, il y a une veillée de prière autour des reliques pendant toute la soirée, avec un ensemble de chœurs ecclésiastiques, et les reliques sont déposées sous une tente, et elles sont gardées. Et le lendemain matin, la cérémonie proprement dite commence donc par des processions. Du lieu où ont été déposées les reliques jusqu'à l'église à consacrer, on porte les reliques en procession jusqu'à la porte, avec un cortège évidemment hiérarchisé, l'évêque en tête, le chœur ecclésiastique derrière, constitué de chantres, de différents prêtres, de différents évêques, parce qu'une consécration était une cérémonie très importante, donc elle était annoncée à l'avance, et on faisait venir, en tout cas on convoquait les évêques de la région, et c'est une cérémonie populaire, en tout cas sociale pourrait-on dire, à laquelle on convoque tous les grands aristocrates de la région sont là, et le peuple de la ville ou de la région proche, et on a une sorte de représentation de toute la société, qui est autour du lieu qui va être consacré, et la société hiérarchisée selon l'ordre théorique qui est l'ordre de l'Église, donc l'évêque, les clercs, les aristocrates, puis le peuple. Tout ça en procession bien organisée, et on arrive devant l'Église et on a une cérémonie d'entrée, puisque avant que l'Église soit consacrée, c'est un tas de pierres, ce n'est pas autre chose, c'est un tas de pierres, de sable et de chaux, et puis après ça va devenir la maison de Dieu, donc c'est quand même une transformation qui n'est pas anodine, et il faut exorciser le lieu. Donc la première cérémonie, c'est un exorcisme, et l'évêque tourne trois fois autour de l'église, et à chaque tour, il s'arrête devant la porte. Il s'arrête devant la porte et il va frapper à la porte avec son bâton pastoral, donc la crosse. Et il y a un diacre ou prêtre, en tout cas souvent dans les textes on parle de diacre, qui est à l'intérieur de l'église, qui est entré, et qui va jouer le rôle de celui qui oppose une sorte de résistance. Certains commentateurs vont même dire que le diacre à l'intérieur de l'église joue le rôle du diable, et que le diable va être vaincu par les trois tours. Alors c'est évidemment ce circuit qu'on retrouve dans beaucoup de civilisations, hein, le circuit comme élément de prise de position, de prise de possession et de consécration. Donc à chaque tour, l'évêque frappe, demande à entrer dans l'église, on lui dit qu'il ne peut pas rentrer, on lui dit « mais qui êtes-vous ? » Il dit « je suis le roi de gloire », il dit « mais qui est ce roi de gloire ?» Et puis ça ne marche pas, et ça marche au bout du troisième tour, les portes s'ouvrent, et là commence la cérémonie. Et alors à ce moment-là, on a une cérémonie très hiérarchisée, où seul l'évêque entre dans l'église, avec le chœur des chantres, et le peuple, les laïcs, restent à l'extérieur. Donc ils vont assister à la cérémonie uniquement de manière auditive. C'est une manière de les faire participer, mais de bien montrer aussi qu'ils sont en position subalterne et que seuls les clercs ont un accès direct, sensoriel, visuel, auditif et actif, puisque c'est l'évêque lui-même qui va procéder à la consécration, de manière directe. Alors là, je passe, parce que, comme je vous disais, ça dure une journée, donc si je détaille tous les épisodes, ça va prendre très très longtemps. Mais à l'intérieur, l'évêque va procéder à des cérémonies de marquage, d'onction et de lustration. Marquage, c'est-à-dire qu'il va marquer le sol, les parties constitutives de l'église. Le sol, les murs et l'autel. Parce qu'en fait, ce qui compte dans la consécration, c'est l'autel. L'église, c'est une enveloppe. Et d'ailleurs, dans les premiers temps du christianisme, on ne consacrait pas les églises, on consacrait les autels, simplement. L'église, ce sont des murs autour qui n'ont pas de valeur en tant que telles, c'est simplement une enveloppe. Alors qu'au Moyen-Âge central, on consacre l'autel et les murs. Donc l'évêque fait des va-et-vient entre l'autel, sur lequel il va tracer des croix, donc des croix invisibles, puisque c'est des croix qui sont tracées avec l'eau bénite ou avec le crème, c'est-à-dire une huile parfumée qu'il trace avec son pouce. Il va tracer des lettres au sol, sur le sol de l'église les deux alphabets, l'alphabet grec, l'alphabet latin, en croix, pour montrer que l'église est la matrice du verbe incarné, et c'est à partir de là que toute la connaissance peut s'exprimer avec les deux langues de la Bible. Il va marquer les murs avec des croix à la fois éphémères, d'eau, d'huile, et des croix durables qui sont les croix peintes qu'on retrouve encore dans la plupart des églises, qui sont les 12 croix de consécration qui doivent marquer l'ensemble de l'espace ecclésial. Et ces marquages, ces lustrations sont également accompagnés de déplacements nombreux. Donc l'évêque tourne autour de l'autel, 7 fois autour de l'autel. Il tourne autour de l'église, à l'intérieur, 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Et c'est au cours de tous ces circuits que sont effectuées les lustrations. On encense également l'ensemble du bâtiment, donc avec des clercs qui portent des encensoirs et qui baignent l'autel puis les bâtiments dans les effluves d'encens. Et donc on a affaire à ce que je qualifie véritablement de cérémonie multisensorielle. Ça fait appel à la vue, à l'ouïe, parce que tout ça est baigné en permanence dans les chants et dans les paroles de l'évêque, qui prononce des formules de bénédiction en invitant Dieu à descendre dans le lieu, à s'incarner dans le lieu et à être véritablement présent dans les murs, dans l'autel. Olfactif, avec l'encens, avec l'huile, qui est une huile parfumée. Donc c'est vraiment l'ensemble des sens qui sont convoqués. Et une fois que tout ça est effectué, on va faire entrer le peuple à l'intérieur. Alors avant de le faire entrer, tout ça est très très progressif, on tourne 3 fois encore autour de l'église avec les reliques qu'on processionne et avec le peuple qui chante. Chante le Kyrie Eleison, Dieu Seigneur prend pitié, et puis ensuite tout le monde entre dans l'église. Mais là encore, même si le peuple est intégré dans l'église, il faut bien marquer sa séparation. Donc on tend un voile entre le sanctuaire et la nef. Donc le peuple est dans la nef, le clergé est dans le chœur, et la fin de la cérémonie reste aveugle pour les laïcs qui entendent, mais qui ne voient pas encore. Ils ne voient pas le mystère proprement dit, qui est l'enfouissement des reliques. Où là, on va enfouir les reliques dans l'autel, dans une petite cavité, qui va ensuite être scellée, qui est également ointe, lustrée, bénie, marquée par les croix, etc. Et une fois que tout cela est effectué, on lève le voile et on illumine l'église, puisque au préalable, 12 chandelles ont dû être déposées tout autour de l'église et elles sont illuminées à la fin. La lumière, évidemment, qui qualifie le Verbe divin, désormais présent à l'intérieur de l'église.
Nous terminons avec la lumière divine. C'était divin, effectivement, ce que nous avons appris grâce à vous, cher Didier Méhu. Merci d'avoir pris le temps de nous parler des voyages des papes et de cette spatialisation du sacré. Nous regrettons tous, avec les auditeurs de Radio Grand Ciel, que l'émission soit déjà terminée. Merci beaucoup Didier Méhu. Bon voyage de retour au Canada.
Merci, je reste encore
et
en France
pour peut-être à très bientôt.
Un certain temps. Merci à vous.
How sweet and happy scene. Those days of which I dream, in memory I recall them now and then. And with a rapture sweet, my weary heart would beat if I could hear my mother. My mother pray again, if I could hear her tender voices then, how happy I would be. It would mean so much to me if I could hear my mother pray again. Around the old home place, her cherishing, smiling face.